Le journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, des trains pas comme les autres. Cela ne roule pas pour cause de grève. Ce sont les TGV Atlantique, presque tous au dépôt. Nous serons gare Montparnasse dans un instant pour ce mouvement sans préavis qui colle à la situation sociale explosive du moment à la SNCF. C'était les forces spéciales américaines ou sa ceinture d'explosifs. Abou Bakr al-Baghdadi a choisi l'explosif. Mort d'un monstre ce week-end en Syrie. On verra comment les Américains s'y sont pris pour le trouver et l'attaquer. La santé priorité des Français alors que le budget de la Sécu sera voté demain à l'Assemblée. Ce sera le sujet du grand entretien, Ali.
Avec la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ancienne rapporteure du budget, Valérie Rabault sera notre invitée à 8h20. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans ce journal aussi, l'extrême droite allemande gonflée à bloc en Thuringe. L'AFD double ses scores au régional. Une série sur les murs que nous allons vous proposer tous les matins sur France Inter à l'approche du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Nous serons à Gaza. Une foule de migrants, une foule terrifiante, porte de la Chapelle à Paris. Ils vivent dans le dénuement le plus total. Ils sont près de 3000. Reportage également. Et puis on terminera avec l'événement ébouriffant de la rentrée à l'Opéra Garnier.
France Inter.
Si votre train n'a pas été annulé aujourd'hui sur la façade ouest, c'est que vous êtes verni. Seulement 2 TGV aller-retour assurés entre Paris et Nantes et Paris-Rennes et 4 voyages en tout et pour tout pour aller ou revenir de Bordeaux. C'est une grève des agents de maintenance des TGV Atlantique qui succède au débrayage de conducteurs à la veille des vacances et qui précède la grosse grève du 5 décembre. On va y revenir. Mais en attendant, prenons le pouls gare Montparnasse à Paris où vous nous dites, Caroline Félix, que les files d'attente s'allonge depuis 2 heures au guichet.
Oui, la file s'allonge parmi les usagers. Il y a Manu qui travaille entre Paris et Mont-de-Marsan.
Là, je dois faire la queue pour qu'on me fasse une annotation pour bien prendre le train de 7h50 pour partir sur le train qui est complet. Pour être assis par terre ou debout, ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont rien à faire. Faut que gueuler tout le temps, toute l'année. Voilà. Et nous, on en pâtit.
Et on lui souhaite bon courage pour la suite. Il doit encore faire plusieurs allers-retours dans la semaine. Dans le hall, un peu plus loin, les rares agents présents dans le hall sont pris d'assaut par les usagers.
Bonjour. Je vais à Brest.
Alors Brest, vous pouvez prendre celui-là. Vous pouvez prendre le train anticipé.
Ce sera très intéressant si j'en ai un.
Et Agnès est venue voir son petit-fils à Paris, mais maintenant elle veut rentrer chez elle.
Moi je veux rentrer parce que j'ai un rendez-vous chez un docteur, j'ai besoin de médicaments, donc c'est urgent. Alors je devais partir cet après-midi, mais il n'y a plus de train, donc je vais à Brest. Je m'y attendais pas du tout.
Et en fait, les rares voyageurs qui sont là, à gare Montparnasse, sont en fait les plus prévoyants. Marie veut aller à la Baule en vacances et en prévision de la grève, elle a changé ses billets pour 40 euros de plus dès samedi. Là, elle est venue pour essayer de se faire rembourser.
On a un peu l'impression de payer leur grève, voilà.
Mais pour autant, elle dit comprendre les raisons de la grève.
Caroline Félix, merci, en direct de la gare Montparnasse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement de grève qui n'avait pas trop pénalisé le trafic jusque-là a démarré lundi dernier au centre de maintenance de Châtillon, en région parisienne. Il est, bonjour Fabien Cazot, bonjour. Il est ce mouvement le symptôme d'une grande crispation des cheminots dans un moment charnière à la SNCF.
Oui, c'est un conflit local au technicentre de Châtillon, mais qui en dit long sur la complexité du dialogue social à la SNCF. La particularité de ce site, chargé de la maintenance des TGV de l'Axe Atlantique, c'est que les cheminots y ont 12 jours de repos supplémentaires, un accord local que la direction veut renégocier avec des compensations sur les week-ends et les jours fériés. Un accord semblait en vue, mais les débrayages consécutifs à la panne du train dans les Ardennes se sont superposés à cette situation donc très locale. Au final, pas de préavis, pas de droit de retrait des cheminots qui prolongent leur mouvement ce lundi. La directrice des TGV Atlantique, Gwendoline Cazenave, condamne fermement le mouvement.
Le projet d'aménagement des conditions de travail a été retiré. Il a été retiré mardi. Ensuite, toutes les revendications qui ont été élaborées par les assemblées générales depuis mardi ont donné lieu à un accord de la direction. Finalement, aujourd'hui, les salariés en grève nous demandent le paiement des jours de grève. Et ça, c'est tout simplement impensable.
Les négociations de sortie de crise doivent reprendre difficilement. Ce matin, on continue à dialoguer, précise la direction, sachant qu'il y a beaucoup de chantiers entre les sujets locaux comme à Châtillon et le chantier national de la réforme de la SNCF. Le tout sur fond d'incompréhension totale du mouvement par les usagers.
Et les syndicats de cheminots, Fabien, ont rendez-vous jeudi chez le secrétaire d'État au transport pour parler d'un autre très gros dossier, celui de la réforme des retraites avant une très grande grève dans les trains le 5 décembre. Et au sujet de ces mobilisations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron assure ce matin qu'il n'y aura aucune forme de faiblesse ou de complaisance face à ces mobilisations. Je veux aller jusqu'au bout de cette réforme, dit le chef de l'État sur RTL.
France Inter, 8h05, la suite du journal Florence. Il était le visage de la terreur.
Celui d'une organisation de mort par attentat, par décapitation, par tous les moyens possibles. Aboubakr al-Baghdadi a fini au fond d'un tunnel du nord-ouest syrien ce week-end. L'histoire retiendra qu'il s'est fait exploser avec ses enfants pour échapper aux forces spéciales américaines. Mort comme un lâche et comme un chien, selon Donald Trump. C'est lui qui a annoncé hier le suicide du chef de Daesh au cours d'un raid américain. Il a suivi ce raid en direct à la Maison Blanche. C'était, dit-il, comme regarder un film. Et on va justement revenir avec vous, Franck Madvon, sur le film de cette opération.
Oui, le raid est lancé samedi à 17h. 8 hélicoptères américains décollent d'Irak à bord des forces spéciales, dont des hommes de la Delta Force. C'est l'une des unités les plus secrètes de l'armée américaine. Les appareils volent en rase-motte pendant un peu plus d'une heure, direction Bashira, un village d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, à quelques kilomètres seulement de la frontière turque. Arrivés à destination, les militaires américains essuient des coups de feu, ils ripostent. Puis les hommes débarquent, ils savent où ils vont. Un bâtiment où Baghdadi a été localisé. Les militaires font exploser un mur. Ils craignent que l'entrée soit piégée. Plusieurs combattants djihadistes sont alors tués. Certains sont capturés. 11 enfants sont récupérés indemnes. Baghdadi, lui, est piégé au fond d'un tunnel. Il actionne sa ceinture explosive et tue les 3 enfants qui l'accompagnent.
Et est-ce qu'on sait, Franck, comment on a localisé Baghdadi?
Oui, les Irakiens ont joué un rôle clé, manifestement, dans cette traque. En début d'année, ils ont contribué à l'arrestation de plusieurs responsables du groupe État islamique qui ont donné des informations précieuses sur les mouvements, les habitudes de Baghdadi. Au début de l'été, les forces de sécurité irakiennes et la CIA sont arrivées à la conclusion que le chef de Daesh se trouvait à Idlib. D'après Reuters, l'un de ses proches a été repéré sur un marché. Il a été suivi jusqu'à la maison où séjournait Baghdadi. Il a fallu encore 2 semaines de préparation, quelques contretemps avant le feu vert vendredi de la Maison Blanche.
Franck Madvon, merci. Aboubakr al-Baghdadi avait des hectolitres de sang sur les mains, celui des milliers de victimes de Daesh en Irak et en Syrie, celui des otages décapités devant les caméras de l'organisation, celui des morts, des attentats qu'il a au minimum inspirés partout dans le monde. En France, les familles des victimes du 13 novembre voulaient le voir arrêté et jugé. Jean Reynard, avocat, défend une dizaine d'entre elles, ainsi que l'association Fraternité et Vérité.
Le premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement parce que évidemment cet individu arrêtera de nuire de la façon dont il le faisait depuis tant d'années. Et puis l'autre sentiment, toujours un peu mitigé, c'est de on l'aurait préféré vivant, ne serait-ce que pour essayer d'obtenir un certain nombre de renseignements et pour essayer de comprendre un peu les motivations qui étaient les siennes. On pense qu'il a été un des organes décisionnaires des attentats du 13 novembre. On n'en a pas l'ultra-certitude. Personne n'a jamais revendiqué de la part de l'ensemble des mises en examen qu'il y avait une instruction qui venait de sa part. Mais on connaît parfaitement dorénavant tous les rouages de l'État islamique et on sait que s'il y a eu cet attentat du 13 novembre, on sait qu'il a été à un moment le décisionnaire et c'est pour ça que pour nous c'était tout à fait intéressant de l'avoir.
Jean Reynard, avocat des familles des attentats du 13 novembre avec Ariane Grissel. Des élections en Europe hier, marquées par la victoire de la Ligue de Matteo Salvini en Ombrie. Le parti d'extrême droite, selon les sondages à la sortie des urnes, remporterait largement les régionales après avoir été écarté du pouvoir à Rome au mois d'août. En Allemagne, l'extrême droite, c'est l'AfD qui double son score au régional en Thuringe, ex-Allemagne de l'Est. L'alternative pour l'Allemagne arrive en deuxième position derrière le parti de gauche radicale Die Linke. Le parti est donc en train de recomposer le paysage politique. Correspondance à Berlin, Ludovic Piétenu.
Avec un candidat, Björn Höcke, au discours radical, populiste et provocateur, fasciné par le Troisième Reich, proche des islamophobes de Pegida, soutenu par la scène néo-nazie locale, le parti alternatif pour l'Allemagne signe un nouveau résultat record. Il gagne 13 points en 5 ans, la CDU d'Angela Merkel en perd presque 11. Dans cette région rurale, la seule des 16 régions d'Allemagne qui reste dirigée par la gauche, Die Linke, en tête à près de 30%, mais qui devra, si elle ne veut pas être minoritaire, former une coalition avec un allié supplémentaire, sans doute les libéraux, en plus des sociodémocrates et des verts avec qui elle gouvernait déjà. Scrutin après scrutin, les partis de gouvernement s'effondrent, l'AFD progresse, les voix s'éparpillent et il faut désormais aux partis politiques constituer des coalitions acrobatiques à 3 ou 4 pour gouverner s'ils veulent maintenir la digue dressée face à l'extrême droite. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
À Londres, Boris Johnson obtiendra-t-il un vote pour aujourd'hui, pour des élections anticipées le 12 décembre, en attendant de boucler le Brexit? Les députés vont se prononcer, alors qu'à Bruxelles, les ambassadeurs des 27 pays européens discuteront d'un projet de report de 3 mois du Brexit. Devant ou derrière le mur, du bon ou du mauvais côté, c'est une série de reportages que nous vous proposons toute cette semaine, à l'approche du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Quels sont les murs qui fracturent encore le monde? Ce matin, c'est Frédéric Mettezo qui nous emmène entre Israël et la bande de Gaza. Un mur a été construit là-bas entre 2017 et cette année, un mur encore plus impressionnant que celui qui borde la Cisjordanie. Reportage.
C'est le mur total, 750 millions d'euros pour 60 kilomètres. Il ceinture intégralement Gaza, raconte Amit Gilutz de l'ONG israélienne Betselem.
Il y a une clôture. Israël est encore en train de fortifier cette barrière. Il a construit un mur souterrain pour éviter les tunnels, équipé de toutes les technologies possibles. Il y a aussi une barrière dans la mer.
Le mur a été achevé au début de l'année ici, à Zikim en Israël, tout près de Gaza. À 1 kilomètre de la plage, on aperçoit la digue de pierre et de barbelés de 200 mètres de long, 50 mètres de large et 6 mètres de haut qui avancent dans la mer. L'armée israélienne explique que le mur a mis fin aux incursions de terroristes, mais il pénalise des milliers de civils palestiniens. Et demain, il pourrait gêner les Israéliens, explique le géologue à la retraite Yaakov Nir, car sa partie maritime retient les courants de sable côté Gaza, ce qui va éroder la côte en Israël.
C'est un effet domino. Ça va grignoter petit à petit et à la fin, on arrivera à un village. La sécurité a été prioritaire pour le meilleur et pour le pire. N'y avait-il pas une autre solution moins chère? Quand on construit avec des pierres, c'est irréversible.
Les ONG dénoncent aussi un mur administratif car les permis de sortie de Gaza sont très rares.
Frédéric Mettezo, en plein débat sur le voile et les signes de radicalisation en France, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Conseil français du culte musulman, inquiet du climat ambiant autour de l'islam. Enjeu de ce rendez-vous, selon le président, voir comment nos concitoyens musulmans peuvent vivre tranquillement leur religion en respectant absolument toutes les lois de la République. Lui les a bafoués, Patrick Balkany, 2 fois condamné et emprisonné depuis 6 semaines, saura aujourd'hui si sa première demande de mise en liberté est acceptée. Pour l'appuyer, il évoque son état de santé à l'âge de 71 ans. Un camp de réfugiés au nord de Paris. C'est un camp sauvage qui atteint des proportions inédites. Les associations y comptent 2500 à 3000 personnes, des migrants qui survivent dans des conditions épouvantables. Et la situation ne fait que s'aggraver. Reportage entre La Chapelle et Saint-Denis, Rémi Brancato.
Sur le trottoir, comme chaque matin, 500 à 600 personnes patientent.
Bonjour monsieur, du café ?
L'armée du salut sert un petit déjeuner porte de la chapelle.
Je vis dans une tente, c'est très difficile.
Mohamed, 20 ans, afghan, est arrivé il y a un mois.
Il y a beaucoup de rats, des gens qui boivent, qui se battent, qui fument de la drogue. Je ne me sens pas en sécurité, c'est très dangereux. J'appelle tous les jours les services d'immigration, j'attends 2-3 heures, mais depuis un mois, ils ne répondent pas.
À proximité, l'association Utopia 56 offre une aide administrative aux migrants, ils sont 2500 à 3000, du jamais vu pour Julie Lavessière, coordinatrice à Paris.
Avant, on les voyait pendant 2 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, on les connaît depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois. La situation s'empire parce qu'il y a une volonté par l'État de ne pas ouvrir de nouveaux centres d'hébergement.
Alors, même ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés peuvent rester à la rue. De l'autre côté du périphérique à Saint-Denis, la halte accueille en journée. Afsra Khan, demandeur d'asile afghan, vient y suivre des cours de français, prendre une douche et charger son portable.
Tous les jours, de nouvelles personnes arrivent. Il y a un mois, il y avait 30 ou 40 tentes. Maintenant, il y en a plus de 100. L'hiver arrive et la nuit, il fait très froid. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de couverture.
Et les associations s'inquiètent aussi. À quelques semaines de l'hiver, les stocks de tentes et de couvertures sont au plus bas.
Reportage signé Rémi Brancato, à voir en images sur franceinter.fr. Il y a beaucoup de plaisir quand on bat l'OM. C'est un joueur du PSG qui parle après avoir gagné 4-0 hier soir au Parc des Princes. Deux buts signés Icardi, deux autres marqués par Mbappé. Après cette 11e journée, les Parisiens en tête du championnat creusent l'écart de 8 points avec Nantes. On termine avec le spectacle événement du moment à l'Opéra Garnier. Investi l'Opéra Garnier par la chorégraphe canadienne Crystal Pite, ovationné ce week-end pour sa pièce en 3 actes, Body and Soul, 40 danseurs sur scène et un vent de modernité sous les dorures de Garnier, Stéphane Capron.
Chopin accompagne cette chorégraphie inventive. Crystal Pite a construit un formidable terrain de jeu pour le ballet. Muriel Zusperegui est première danseuse.
Elle a elle-même travaillé beaucoup de styles, donc forcément, ça se retrouve aussi dans son travail, puis dans ce qu'elle aime, elle, voilà, ce qu'elle peut trouver aussi en nouvelles techniques d'aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi maintenant. Il y a tellement de types de danse. Elle va chercher, elle va puiser son inspiration un peu partout.
Soudain, figure de ce cabre, s'agrippant la tête, la bouche ouverte.
La voix de Marina Hans énonce les indications, décrit les gestes des séquences qui sont autant de moments de vie pour le danseur étoile, Hugo Marchand.
Ce qui représente le plus l'œuvre de Crystal ici, c'est l'humanité qu'elle a pu y mettre dedans. Crystal a réussi à faire un rythme extrêmement précis et fort dans son ballet, ce qui fait que le spectateur est presque dompté.
Et puis, les danseurs se transforment en créatures futuristes. Déguisés en martiens, ils font des pointes dans des combinaisons en latex, expérience inédite pour Muriel et le ballet.
J'avoue que c'est une grande première. Je ne sais pas si je renouvellerai, c'est un peu particulier. L'effet est très 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 réussi.
Enfin, le spectacle se termine sur une musique de Teddy Geiger. Garnier se transforme alors en dance floor.
Eh ben, ça déménage apparemment Body and Soul avec des danseurs en latex. Signé Crystal Pite à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, jusqu'au 23 novembre.
Merci Florence Paracuelos.